France Inter. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans un monde nouveau. Votre fidèle rendez-vous du samedi qui s'intéresse aux mutations de notre temps. Aujourd'hui, allons scruter deux marqueurs de la société qui sont en plein changement, la voiture et le bronzage.
Tu es bronzé, Marc.
Redis-le-moi en face.
Tu es bronzé, Marc. T'es magnifiquement bronzé.
Il est très bronzé, c'est vrai.
Vous le pensez aussi?
Ah oui, de loin, vous êtes le plus bronzé d'entre nous, Marc.
C'est la plus belle chose qu'on m'ait jamais dite.
Dans Le Flambeau, la parodie de Koh-Lanta avec Jonathan Cohen, être bien bronzé, c'est le plus beau des compliments, façon de se moquer gentiment de cette époque où la peau dorée était un atout de charme et un signe de réussite. Comment le bronzage a-t-il changé de statut? Y a-t-il une fracture sociale du teint? Nous ferons le point dans une deuxième partie avec la philosophe Margot Casson qui signe un essai passionnant sur le sujet ultraviolet. Mais d'abord, cette passion française avec le président Macron.
Ce qui est très important pour nos Français, c'est qu'on est attaché à la bagnole. On aime la bagnole. Et moi, je l'adore.
Tandis que le Mondial de l'Auto 2024 touche à sa fin ce week-end, une question s'impose. Sommes-nous encore amoureux de la bagnole? Objet de passion et de nécessité, de paradoxe et de drame, la voiture et son industrie arrivent à un moment charnière après un siècle de développement et de massification. Entre bascule économique et écologique, changement d'imaginaire et tension sociale, il va falloir négocier le virage. En route pour un monde nouveau.
France Inter. Un monde nouveau. Mathilde Serrel.
Je suis ravie d'accueillir à bord de cette discussion, c'est promis, il n'y en aura pas trop, mais on a envie quand même, on est sur une émission voiture. Nos trois invités, Valérie Charolle, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe et chercheuse au laboratoire d'anthropologie politique de l'EHESS et vous avez également publié « Se libérer de la domination des chiffres » chez Fayard. À vos côtés, Jean-Laurent Casselli, bonjour.
Bonjour.
Auteur et conférencier, vous avez publié avec Jérôme Fourquet un livre qui fait souvent référence, « La France sous nos yeux ». Au Seuil en 2021 et vous êtes fondateur de Maison Casselli, bureau de tendance spécialisé dans les questions de mode de vie et de territoire. Enfin, Nicolas Plamondon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ancien publicitaire, passionné par les vieilles voitures et aujourd'hui créateur de contenu sur les réseaux sociaux, plus connu sous le nom de Nico le Petit Français, Nico LPF sur Instagram. D'abord une question à tous les trois, si vous en avez eu une, à quoi ressemblait votre première voiture, Valérie?
Ah, c'était une Clio, c'était une des premières Clio, une Clio toute simple, grise, trois portes, je l'ai gardée longtemps.
Et vous, Jean-Laurent?
Alors moi, j'ai eu et j'ai toujours une Sandero Dacia que j'ai achetée après le Covid, en quoi je suis assez représentatif de ces Français qui se sont rués sur les concessionnaires pendant les confinements parce qu'ils avaient besoin de s'échapper mentalement et géographiquement de là où ils étaient.
Voilà. On va en parler, vous êtes un échantillon représentatif. Quant à vous, Nico le Petit Français, vous êtes représentatif ou pas avec votre première voiture?
Ouais, moi j'ai eu une 206 qui appartenait à ma grand-mère, mais qu'elle m'a gentiment laissé utiliser toutes mes premières années de permis. Donc c'était, j'avais l'habitude de l'appeler ma voiture à Manouf.
Voilà. Alors, représentatif, on verra, mais ça représentait quoi pour vous, cette voiture, à ce moment-là? On est en quelle année?
Moi, on est en 2007, 2008, et moi, ça représentait surtout la liberté. Je ne suis pas parisien à la base, je viens de Bordeaux, et ça me permettait de me déplacer dans toute la région assez facilement et de pouvoir partir en compétition, parce que je faisais du sport tout seul, ce qui était un grand soulagement pour mes parents aussi.
En 1966, d'après le président Georges Pompidou, voilà ce que ça représente la voiture.
On peut dire que l'automobile a transformé la vie des hommes en même temps que le visage d'un bon nombre de nations. Et l'on peut dire que l'automobile n'est pas seulement, comme le disait tout à l'heure Monsieur Gallienne, un signe de promotion sociale, elle est véritablement le signe de la libération de l'individu. C'est une forme moderne par laquelle se marque la volonté de l'individu de se libérer du groupe, de garder sa personnalité, sa liberté d'allure, la possibilité d'aller quand il veut, où il veut, comme il veut.
Je m'adresse à la philosophe d'abord, Valérie Charolle. Une réaction à cette définition en 1966 de ce que symbolise la voiture et la liberté d'allure?
Ah, ben, c'est une définition qui est complètement d'époque, hein, et c'est un peu la même chose, il dit un peu la même chose avec ses propres mots que ce que dit Roland Barthes dans les mythologies, oui. 10 ans plus tôt, en disant la voiture, c'est l'objet magique de l'époque, c'est l'équivalent des cathédrales pour le Moyen-Âge, c'est un élément qui montre aussi notre puissance, mais c'est un diagnostic qui est plus vrai du tout aujourd'hui.
Complètement dépassé.
C'est complètement dépassé parce que c'est plus un instrument de liberté pour l'essentiel des gens qui ont des voitures. Ils sont obligés d'avoir une voiture parce qu'on a construit les endroits où habitent les gens par rapport à où ils travaillent, où ils font leurs courses, où les enfants vont à l'école, en fonction du besoin d'utiliser une voiture. Donc ils sont coincés. Ils sont même souvent coincés à avoir 2 voitures pour un couple.
Et Jean-Laurent Casselli, c'est même une nécessité douloureuse, non, vu le niveau de vie des Français?
Bah, c'est vrai que c'est une contrainte à plusieurs niveaux. C'est une contrainte effectivement logistique, c'est une contrainte financière forte. C'est pour ça que quand on est propriétaire d'une voiture, on se rend compte en fait des frais qui sont engendrés par l'entretien du véhicule, enfin son achat, son entretien, l'essence évidemment, le péage. Le péage est devenu autoroutier est devenu un coût d'accès tel, un ticket d'accès tel que beaucoup de gens renoncent à se déplacer ou à prendre l'autoroute. Donc oui, c'est devenu une contrainte. Je pense que ce qui a remplacé l'auto, la bagnole, comme symbole de liberté, d'expression de l'individualité, c'est probablement les réseaux sociaux et la culture numérique. Aujourd'hui, d'ailleurs, les jeunes, comment est-ce qu'ils se rencontrent? Comment est-ce qu'ils s'émancipent de leurs parents? C'est par Snapchat,
c'est pas par la voiture. Le nouveau rite d'initiation, c'est d'avoir son téléphone, c'est pas d'avoir son permis.
Exactement. Par contre, je pense que la voiture reste nécessaire et présente dans la vie, notamment des jeunes, contrairement à ce qu'on entend parfois sur le fait qu'il y a un abandon de la voiture, qu'ils ne passent plus le permis de conduire. Les jeunes parisiens ne passent plus le permis de conduire. Les jeunes français continuent à le passer.
Il faut donner ce chiffre. Hein. 75% de la population française a besoin d'une voiture. Voilà, en l'état. Un mot de l'ancien publicitaire. On avait l'imaginaire pompidolien. Qu'est-ce que vous en dites? Et comment vous avez ensuite vendu des voitures au XXIe siècle, Nicolas Plamondon?
Eh ben, il a beaucoup changé. Comme tu disais, en effet, c'est aujourd'hui aussi une contrainte d'avoir une voiture. Mais il y a quand même cette part d'achat plaisir et de plaisir et de rêve quand on achète un véhicule.
Donc, on va essayer de renouveler ces imaginaires. Entre autres, vous restez avec nous dans un monde nouveau. Il est question d'auto.
Finalement, sais-tu? Et que dans cette nuit spectrale, tu arpentes les rues. Que souille le sang noir et pour de soldats inconnus. Tu te sens comme un acrobate, un fil suspendu. Échappant au gros des chacals et des balles perdues. Sur ton cœur une vierge rouge protège les vaincus. Sur des rythmiques hypnotiques se consolent les fanatiques. Dans les vapeurs d'alcool les romanceurs des idoles, l'histoire est amnésique, twister les fanatiques, flotter les banderoles au chant de leurs idoles. Sans tomber. Et dans cette nuit de métal, mourir pour ses idées. Tu es une cible idéale, fourbue mais délivrée.
Une envie de partir. partir et faire sa vie ailleurs, Étienne Dao sur France Inter, avec le chant des idoles extrait de son dernier album « Tirer la nuit sur les étoiles » où figure, tiens tiens, une Citroën DS sur la pochette.
France Inter. Un monde nouveau. Mathilde Serrel.
La Citroën DS19, dans les mythologies du sémiologue Roland Barthes, vous en parliez tout à l'heure, c'était en 1957. C'est une cathédrale moderne conçue passionnément par des artistes inconnus, consommée dans son image, sinon dans son usage, par un peuple entier, disait Barthes. On dirait quoi aujourd'hui de la Dacia Sandero, la voiture numéro 1 des Français? Je vous pose la question, Jean-Laurent Casselli, puisque vous avez travaillé à la question.
Oui, probablement que la Dacia s'intégrerait aux nouvelles mythologies. C'est une marque, donc un constructeur roumain qui est arrivé sur le marché français en promettant le plaisir du neuf au prix de l'occasion. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui en France, pour une voiture immatriculée neuve, il y a 3 voitures qui sont vendues d'occasion. La norme aujourd'hui pour une voiture, c'est d'être achetée d'occasion. Et quand on achète une voiture d'occasion, parmi ces voitures-là, ce qui est majoritaire encore aujourd'hui, c'est le diesel. D'accord ? Donc on est très très loin de l'idée qu'il n'y aura plus de voitures thermiques d'ici une dizaine d'années. En tout cas, pour revenir
c'est
à la...
2035 la limite fixée par
voilà,
l'Union
en 2035,
européenne pour les voitures à moteur thermique.
Il n'y aura plus de voitures thermiques vendues neuves, donc d'ici 10 ans, on pourra évidemment continuer à rouler avec sa voiture diesel ou essence qu'on a achetée avant, mais au-delà de ce seuil, il n'y aura plus de voitures thermiques, ce qui est une bonne chose pour l'environnement, mais qui pose un énorme problème qui est en train de se cristalliser là, pendant le salon de l'auto. C'est pour ça qu'on reparle beaucoup de bagnoles en ce moment. C'est un problème d'accessibilité, parce qu'avec la transition vers l'électrique, les voitures sont devenues plus cher.
Donc le symbole de la Dacia, c'est ça aussi. C'est que c'est la voiture la moins chère, tout simplement, la seule qu'on puisse s'offrir.
Alors, il se trouve que Dacia, je ne veux pas dire de bêtises, il me semble qu'elle a justement augmenté ses tarifs, elle a changé un petit peu de positionnement. Donc, c'est intéressant de voir que des marques qui étaient perçues comme low cost elles-mêmes se sont un petit peu montées en gamme. Donc, aujourd'hui, la vraie question, c'est est-ce qu'il y a encore une voiture du peuple ? C'est la voiture d'occasion, hein, au diesel. Je ne reviens pas sur les gilets jaunes, mais on sait à quel point voilà, cette crise a jailli dans la société française à cause d'une question de taxes sur les carburants. En tout cas, aujourd'hui, la question, c'est comment on vend des voitures électriques à des prix acceptables à une population qui a un peu peur de ce passage à l'électrique. C'est pour ça que ce qui marche plutôt bien, c'est les hybrides, celles qui sont à la fois avec un moteur thermique et un moteur électrique. En tout cas, il est vrai que ce passage à l'électrique pose problème parce que les voitures sont de plus en plus chères. Et on voit que les constructeurs, je dirais, historiques occidentaux ont du mal à faire passer la pilule. D'où ce marketing, voilà, cette publicité fascinante avec des musiques vintage qui nous rappellent les années 70, 80, 90, qui sont là pour nous rappeler un moment où la voiture, c'était la voiture de Roland Barthes, c'était la voiture des catégories moyennes, et on est loin des prix qui sont pratiqués aujourd'hui en sortie d'usine, surtout si on veut des options, si on veut rajouter de la high-tech ou une couleur un peu rare en carrosserie. Quoi.
Le publicitaire confirme, Nicolas Plamondon.
Le publicitaire confirme, je pense que la
c'est
Renault 5...
C'est la nostalgie
5,
qui domine.
Le retour de la Renault 5 en est un exemple, je pense, probant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que en tout cas le travail en termes de design rétro a été très 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 bien fait, parce qu'on mixe vraiment très bien le côté rétro de la voiture avec le côté futuriste et la motorisation électrique.
Mais la seule façon de se projeter dans la voiture, c'est dans le rétro.
Mis à part Tesla, hein. Tesla qui est la marque qui a introduit l'électrique et qui a introduit aussi l'idée de modèles électriques très haut de gamme. C'est un peu la nouvelle DS en fait, hein, la Tesla, surtout les premiers modèles, c'est des modèles très très chers. Aujourd'hui, ils descendent un petit peu en gamme, ils commencent à faire des voitures plus accessibles.
Alors les premiers prix sont aux alentours des 30 000 euros avec les bonus sur la modèle 3. Et franchement, pour le coup, comme tu dis, Tesla joue et démocratise énormément l'électrique là-dessus.
Valérie Charol.
Moi, il me semble que le futur de la voiture, c'est plutôt de l'imaginer partagée et intermittente. C'est d'imaginer, de sortir de l'imaginaire de la voiture individuelle, familiale, et d'avoir des voitures en copartage, qu'on loue, qu'on a de temps en temps. Et donc, par rapport à ça, il y a une industrie qui veut nous enfermer dans une idée de... On a notre voiture individuelle et le paradoxe, je trouve qu'il y a deux paradoxes aujourd'hui, c'est que les voitures sont de plus en plus chères parce que aussi elles sont de plus en plus grosses, alors qu'on sait très bien qu'il faudrait des voitures moins grosses. Et puis le deuxième paradoxe, c'est ce que je disais là, franchement, pourquoi est-ce qu'on ne nous projette pas plus dans un monde où on a moins besoin de voitures, où les courses viennent à vous? Votre travail est plus près de vous, c'est-à-dire que vous avez plus de journées où vous êtes chez vous.
Ouais.
Enfin, autre chose.
On le rappelait tout à l'heure, 75% des citoyens français ont besoin de leur véhicule. Vous avez cet exemple d'une entreprise des Vosges, Valérie Charol, qui n'arrivait pas à recruter. Et quand ils sont passés à la semaine de 4 jours, et donc ça limitait le nombre d'allers-retours par semaine, bah, tout d'un coup, ils ont eu du monde.
Et oui, ça, je trouve que c'est vraiment
c'est révélateur.
L'idée du gagnant-gagnant dans le futur. J'ai lu ça dans le journal il y a à peu près un an. Hein. Cette entreprise qui était dans une vallée des Vosges, elle n'arrivait pas à trouver des gens pour une entreprise industrielle de taille moyenne à fidéliser et à trouver et à recruter. Elle met la semaine de 4 jours, donc les gens travaillent plus chaque journée, mais ils ont un jour, donc un aller-retour de moins. Et tout le monde y gagne.
Il y a 90% des habitants dans les zones rurales qui ont besoin de voitures. Ça va tomber à 66% dans l'agglomération parisienne. Et ça crée une crispation aussi, une crispation sociale, des tensions avec presque, pas une sécession du territoire, mais quand même entre les villes, les grandes villes, on va dire plutôt, avec hypercentre et le reste de la France. C'est en train de se fracturer, Jean-Laurent Casselli ?
Oui, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le Parisien, mais aussi le Lyonnais ou le Bordelais, le Nantais, il ressemblait au Français moyen il y a 30 ans, dans la mesure où il avait déjà moins fréquemment une voiture, il avait plus de transports en commun, évidemment, mais il ne vivait pas dans un monde dans lequel il pouvait vivre totalement sans voiture. Aujourd'hui, si je caricature un peu, le citadin, qu'est-ce qu'il fait ? Le matin, il sort de chez lui, il prend soit son vélo électrique, soit les transports en commun, le tramway ou le métro, ou peut-être le TER, et puis quand il part en vacances, il prend l'avion ou le TGV. D'accord ? Donc il est dans à la fois la ville du quart d'heure, dont vous avez parlé, et la ville du 10 000 km, d'accord ? Le périurbain, le rural, il est plutôt dans un équilibre un peu différent dans lequel il fait tous les jours quelques kilomètres ou quelques dizaines de kilomètres. Et on sait que c'est entre 10 et 100 kilomètres. C'est dans ces trajets-là que la voiture est ultra majoritaire. Donc, je veux bien qu'on fasse le sujet sur la transition, etc., mais il ne faut pas se leurrer. En fait, on n'y est pas du tout. Et le problème, c'est que nous, les citadins, on commence à parler de l'après-voiture, mais en fait, il y a plus de voitures en circulation qu'il y a 30 ans. Les gens s'en servent toujours autant, et vous l'avez dit, dans la ruralité, en fait, on est encore plus dépendant de la voiture qu'il y a 30 ans. Donc, en fait, on n'est absolument pas dans cette transition, absolument pas.
Parce que Valérie Charol, c'est ça, il y a eu un double mouvement, c'est-à-dire qu'il y a eu une massification de l'objet voiture dans sa proposition, mais aussi une massification des infrastructures dédiées à la voiture. En fait, tout ça s'est nourri à avancer ensemble.
Voilà, on s'est mis dans un mode progressivement qui est pas...
Un mode de dépendance.
Exactement celui des villes américaines, parce que les villes américaines, là, vraiment, vous n'êtes pas à quelques kilomètres en voiture, mais on a organisé des centres commerciaux partout, vidé dans les villages, les petits commerces, ce qui fait que ça a rendu la voiture obligée. Alors qu'auparavant, dans un village, vous n'aviez pas forcément, il y avait les commerces de proximité. Donc la voiture, c'était pour les grosses courses une fois par semaine. Je dis ça en tant qu'ex-provincial. Hein. Mais ce qu'on peut retrouver en 10 ou 20 ans, s'il y a une politique d'aménagement du territoire, je vous rejoins, aujourd'hui on n'y est pas, mais dans 10 ou 20 ans, on peut s'y mettre.
Il y a une question donc, de transformation, d'aménagement du territoire, mais même post-transformation, imaginons, dans ce monde de voitures électriques et cette organisation moins dépendante de la voiture, il y a une passion qui va au-delà pour la voiture. Quand on voit les enquêtes qui sont publiées, 81% des Français qui se disent engagés émotionnellement avec leur automobile. Jean-Laurent Casselli ?
Bah, en fait, c'est vrai que la voiture, ça pollue, c'est cher, c'est dangereux. Et malgré tout, et on en parle comme ça en des termes plutôt péjoratifs à la radio, et malgré tout, les gens continuent d'être attachés, je sais pas, mais en tout cas, de posséder très massivement des voitures et d'utiliser leurs voitures quasiment tous les jours. Et je pense qu'il faut pas non plus oublier l'aspect pratique de la chose. Si on propose aux gens des alternatives, en fait, ils s'en saisissent. Par exemple, si je reviens sur un peu les caricatures, je connais des Parisiens qui ont des SUV, qui emmènent leurs enfants en vélo cargo le matin à l'école, parce que c'est plus pratique, parce qu'ils en ont marre d'être bloqués dans les bouchons. Donc il y a aussi des manières de faire évoluer les gens quand l'alternative est pratique, et surtout quand l'alternative, et ça on l'a vu sur tous les sujets de changement climatique, quand l'alternative leur fait gagner de l'argent, leur faire économiser de l'argent, et n'est pas quand la vertu, on va dire, écologique n'est pas vue comme un surplus.
Quand c'est pas un levier moral, mais voilà. un levier tout simplement économique, pratique.
Voilà, et quand c'est un levier moral plus un surcoût, bah effectivement ça coince un peu.
Alors ce qui est intéressant, si on reprend un peu l'histoire de la philosophie, puisqu'on était tout à l'heure avec Barthes dans la sémiologie, des cathédrales, une vision dépassée. Il y aura également Guy Debord qui va écrire, Jean Baudrillard. Ils vont travailler un signal d'isolement. Il y a une sorte de rupture. Il y a une rupture par rapport au collectif dans le choix de la voiture à travers ces deux lectures-là. Et puis, il y a un philosophe plutôt amoureux de la voiture qui est intéressant, qui s'appelle Matthew Crawford, qui est toujours vivant, très intéressant, et qui dit qu'en fait, c'est un moment presque de frivolité dans une société qui est totalement dévouée au capitalisme productif. C'est une opportunité d'oisiveté. Au lieu de remplir, d'aller commander par exemple des choses sur Internet, de répondre à des emails, etc., vous êtes occupé à conduire, à écouter de la musique, à vous centrer sur vous. Malgré les nombreuses frustrations liées à la conduite, il écrit « Nous percevons souvent notre voiture comme un espace humanisant, une sorte de refuge ».
Oui, alors ça c'est Éloge du carburateur, si je ne m'abuse, comme livre. Et c'est vrai que la voiture, je pense que si elle fait rêver, c'est parce que c'est un endroit personnel, de la famille, individuel, où on est tout seul, ou en famille, éventuellement avec son téléphone et connecté avec les gens qu'on apprécie. Donc une sorte de bulle dans laquelle on se met pour être séparé un peu du monde. Et je dirais que c'est pas forcément son aspect le plus sympathique. Moi, j'avoue que le moyen de transport dans lequel je me sens bien, qui me fait rêver, et j'aimerais beaucoup que d'autres le partagent, c'est le train. Moi, j'ai des super souvenirs d'avoir fait Interrail quand j'avais 18-19 ans, d'avoir passé des nuits dans des trains, d'avoir fait toute l'Europe.
Il y a un Paris-Berlin en 8 heures maintenant.
Et aujourd'hui, on traverse la France à toute vitesse en train, donc c'est aussi autre chose comme forme de rêve, c'est un rêve plus collectif où on rencontre des gens.
Et je voudrais qu'on parle du coup du phénomène... SUV Jean-Laurent Casselli. Qu'est-ce que ça raconte puisqu'on a pris le signe de la Dacia, voiture numéro 1 des Français. La deuxième, c'est les SUV. Qu'est-ce que ça raconte?
Bon, c'est sûr que pour quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec la bagnole, vous lui parlez de SUV, c'est comme un gros mot, c'est comme de la provocation, quoi. C'est devenu un terme extrêmement connoté.
Décrivez-nous ce que c'est.
Ce sont des grosses voitures qu'on a longtemps comparées, dont on a vu comme des héritières des 4x4. En fait, il se trouve que ce sont plutôt aujourd'hui des voitures familiales. Ce sont des grosses voitures qui sont très, vous l'avez rappelé, qui sont très lourdes. C'est pour ça que leur impact écologique est très critiqué. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est un segment que les constructeurs ont fait croître. Pourquoi les gens ont des SUV? Réponse, parce que quand vous rentrez, vous allez chez un concessionnaire, il y a plein de SUV. Et il se trouve que c'est devenu aussi par rapport au
Berlin. C'est l'offre, en fait, qui a créé
alors,
ça.
C'est aussi l'offre, et il ne faut pas oublier que c'est la voiture familiale aussi des mamans. C'est-à-dire que la caricature du la voiture égale un mec bourrin qui n'aime pas Anne Hidalgo, ça existe, mais il ne faut pas oublier que dans les faits, il y a d'autres catégorie en fait dans cette espèce des possesseurs de SUV, et il y a, je crois qu'il y a près de 40% maintenant des ventes, ou 35-40% des ventes qui sont dans ce segment automobile, donc c'est devenu la voiture familiale. Et pourquoi les gens en ont? Parce qu'il y a un cercle vicieux, c'est vrai, qui est enclenché, c'est que plus il y a de SUV sur la route, plus il vaut mieux avoir un SUV soi-même pour être confortable, et surtout pour se sentir sécurisé. Voilà.
Alors c'est pas non plus le débat SUV qu'on a envie de porter aujourd'hui, mais il se trouve que l'actualité du jour, c'est aussi un hommage à un cycle de 27 ans qui a été renversé volontairement par un conducteur de SUV. C'était l'objet d'un grand débat sur une chaîne concurrente, RMC, dans les Grandes Gueules. La secrétaire nationale des écologistes, Marine Tondelier, répondait aux questions.
Yann Brossat, sénateur communiste. Monsieur Béliard, adjoint à la mairie de Paris, faut interdire les SUV. Eh bien ça, c'est bête et c'est méchant. Parce qu'on veut pénaliser tous les conducteurs de SUV. Il s'agit d'un comportement. Un comportement.
Comportement personnel.
Et donc vous voyez pas le problème, parce que là on parle de quelqu'un qui est mort.
Ben oui, justement.
Et donc, il y a une violence envers les cyclistes dans ce pays. Et en fait, il y a aussi des émissions qui valorisent. Il y a une survalorisation de la bagnole dans la société. Les gens qui préfèrent leur bagnole que leurs femmes et leurs enfants. C'est flippant. Et ce cycliste s'est fait écraser parce qu'il avait touché le sacro-saint véhicule de cette personne, mais c'est honteux.
On voit le niveau de violence aussi du débat, Jean-Laurent Casselli. Votre camarade Jérôme Fourquet, avec qui vous avez signé justement cette France sous nos yeux, il parle d'une situation incendiaire, en fait, à l'endroit de la voiture et des frictions autour de ce thème.
Oui, alors cette mort-là de ce jeune homme qui était en plus un militant de la cause cycliste, c'est atroce, et je suis surpris de voir, un peu choqué même, de voir depuis hier des posts ou des analyses sur les réseaux sociaux qui nous expliquent qu'il y a une sorte de continuum entre la possession d'un SUV et... ce horrible meurtre. On ne sait pas encore.
Oui, il y a une enquête qui est ouverte.
Ce qui s'est passé. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais je vois, en tout cas, pour ce qui est de ma compétence, je vois monter autour de ce fait divers atroce à une sorte de guerre culturelle sur. Comme si c'était une illustration de la guerre entre les automobilistes et particulièrement les automobilistes qui ont des grosses voitures et les cyclistes qu'on sait que les militants du vélo sont très proches du parti écologiste, de la pensée écologique historiquement, et là on voit bien qu'il y a un risque d'affrontement je sais même pas s'il faut dire de récupération politique parce que c'est au-delà de ça, mais il y a une sorte de symbole qui percute complètement nos imaginaires, et je pense qu'on a tous fait en fait le lien malgré tout.
Alors, si on se projette dans l'avenir et dans la réconciliation, ça pourrait nous faire du bien, par exemple. Il y a 79% des Français qui pensent qu'on a en fait en face de nous une catastrophe climatique, mais qui pensent aussi qu'on peut combiner la possession de la voiture avec ces enjeux et ce défi. Jean-Laurent Casselli, il y a des possibilités aujourd'hui de combiner les deux, répondre aux enjeux climatiques et continuer à posséder une voiture ?
Oui, parce que l'idée de dire dans 10 ans, il n'y aura plus de maisons individuelles, il n'y aura plus de voitures, qu'elles soient thermiques ou électriques, ça peut nous amuser sur le papier, mais on sait très bien que ce n'est pas vrai. Ce ne sera pas le cas. Il y a 40 millions de véhicules en circulation, ils seront encore là dans 10 ans, certains d'entre eux dans 12 ou 15. Donc, et les routes seront encore là, les infrastructures, les centres commerciaux de périphérie seront là. Donc on aura évolué par petits pas. Ces petits pas auront fini par créer peut-être des modes, des usages alternatifs qui vont peut-être se généraliser, peut-être plus de covoiturage, plus de mobilité alternative. On sait qu'il y a de plus en plus de pistes cyclables, par exemple, en périphérie et dans les campagnes. C'est plus juste un truc de ville et de bobo, si je caricature. Donc
et la location sociale, l'aide de l'État à la location sociale d'un véhicule.
Oui, de toute façon, je pense que les gens, quoi qu'il arrive, même face à tous les discours moraux, feront le choix de ce qui est le plus pratique pour eux. Voilà. Donc, tant qu'il n'y aura pas d'alternative viable, c'est-à-dire crédible, pas un covoiturage si en fait les gens ont des horaires complètement désynchronisés et ne travaillent pas dans les mêmes lieux, quand il y aura des alternatives crédibles, les gens les suivront.
Valérie Charolle.
Je pense qu'il ne faut pas insulter l'avenir, au sens où on n'aurait pas imaginé il y a 15 ans ce que les téléphones portables existent, et on voit tout ce qu'ils ont changé dans notre quotidien. Il se peut qu'il y ait une rupture technologique devant nous qui rende la voiture beaucoup moins nécessaire. Je pense que dans le monde du travail, le développement du télétravail, qui n'est pas généralisable à tout le monde, mais peut induire de beaucoup moins grands besoins en termes de transport pour aller
Il y a beaucoup de métiers qui ne le permettent pas.
Non, il y a des métiers qui ne le permettent pas, mais il y a des métiers qui le permettent. Et il y a pas mal de portes ouvertes aussi qui peuvent être mises en place sur les territoires ruraux. On voit qu'il y a des offres de bus, qu'il y a de bus à la demande qui se développent. Donc moi, je serais beaucoup moins pessimiste, parce qu'on est aussi une France qui vieillit. Et après 70 ans, je suis désolée, mais les gens commencent à conduire de moins en moins bien. Et le problème, c'est qu'ils continuent à conduire. Donc aussi, on a aussi un problème qui est celui-là devant nous.
Nicolas Flamandon. Non, mais en tout cas, il y a ces chiffres. Il y a 80% des Français qui pensent qu'on ne pourrait pas se passer de voiture. Mais chez les jeunes, on va tomber autour des 66%. Donc là, il y a un changement en cours.
Oui, il y a un changement en cours, et puis on voit même de règle générale, les gens, les jeunes utilisent moins la voiture, comme tu le disais tout à l'heure, pour se déplacer en train déjà. En fait, dès que tu as envie de te déplacer sur des grandes distances, aujourd'hui, c'est vrai que tu vas plutôt prendre le train, tu vas plutôt prendre l'avion si vraiment tu veux partir beaucoup plus loin, plutôt que d'avoir une voiture. Mais déjà, les jeunes, je pense, ont aussi moins de voitures à disposition, ou achètent leur première voiture aussi beaucoup plus tard, parce que acheter une voiture, c'est un coût qui est énorme, et c'est pas quelque chose que tu peux te permettre à 22 ans quand tu commences à travailler, par exemple.
En tout cas, c'est le débat partiel du jour dans cette émission Un Monde Nouveau Automoto. Vous restez avec nous. Après le rapport à la voiture, on va en parler dans quelques instants, c'est le rapport au bronzage qui est en train de changer. Mais qu'est-ce qui va nous rester des années 80, alors, s'il n'y a pas la voiture et pas le bronzage? La musique, peut-être. Le groupe La Femme revient avec Rock Machine, leur premier album entièrement écrit en anglais et en hommage aux sonorités New Wave et Cold Wave des années 80. D'ailleurs, dans les 80s, des groupes aussi géniaux que Blafard comme Cure répondaient-ils à une société du bronzage clinquant ? Sûrement un peu.
Mathilde Serrel, Un monde nouveau sur France Inter.
Aujourd'hui, qui veut la peau du bronzage ? On en parle avec vous, Margot Casson, vous êtes philosophe, bonjour.
Bonjour.
On vous connaît pour votre livre « Vivre nu » sorti en 2023, une ode au naturisme. Vous revenez avec « Ultraviolet », un essai intime sur le bronzage, publié chez Grasset. Je dis « intime » parce que le livre parle d'abord de votre mère.
Oui.
C'est le personnage du film, du livre. Vous la décrivez comme une Rastignac du bronzage. Pourquoi Rastignac ?
Bah, le livre, il vient de deux points de départ. Le premier, c'est la folie privée de ma mère qui est addict au bronzage et qui a eu un cancer de la peau. Et quand je l'ai vue juste après son opération repartir au Maghreb où elle habite, et le premier geste qu'elle a, c'est de se remettre sur le transat comme on s'allonge sur une civière et de se plaquer du monoeil, je me suis dit, il faut peut-être faire une enquête sur ce qu'il y a derrière le bronzage. Et puis, au fil de cette enquête, je me suis rendu compte que le bronzage, ça raconte une génération, celle des années 80, que j'appelle dans le livre les Rastignac du soleil. Bon, Rastignac, c'est le personnage du parvenu chez Balzac. Et autant Rastignac, pour arriver dans la grande société, fréquente des femmes qui tiennent des salons, autant les Rastignac du soleil utilisent leur peau pour parvenir. Parce que dans les années 80, on utilise son corps comme une marque de réussite.
Et donc ça, par exemple, pour vous, les exemples, c'est Jacques Séguéla, Jack Lang et les autres, c'est eux les Rastignac du bronzage.
C'est eux, ça peut être Donald Trump aussi, qui est le symptôme paradigmatique de cette période, qui utilise la peau. Vous aviez cité Jean Baudrillard tout à l'heure pour la voiture, mais Jean Baudrillard, il est aussi intéressant sur le bronzage dans son livre La société de consommation. Il raconte comment est-ce que dans les années donc 70 qui vont suivre et ensuite 80, on utilise le corps comme une résidence secondaire, comme un vêtement de prestige, parce que le corps n'est plus le corps de Dieu dans les sociétés sécularisées. C'est un corps qui devient un objet marketing, un capital, un fétiche dans lequel on doit investir. Et le bronzage fait partie de ce travail d'investissement, puisqu'il envoie un signal de bonne santé, de réussite, de victoire personnelle aussi.
Donc c'est un investissement pour afficher des signes de réussite qui engendreront de nouvelles réussites, en fait. Ça fait partie du programme.
Exactement. Bah, Jacques Séguéla, par exemple, raconte lui-même que quand il allait en rendez-vous, en fait, le fait de faire une séance d'UV avant ou d'aller bronzer, ça envoyait un signal, ça permettait d'avoir des plus gros contrats, parce que ça envoyait un signe de confiance à celui qui est en face et qui se dit, tiens, là, on est face à quelqu'un qui a des contrats, qui réussit. C'est un peu la roue du hamster.
Il y a du marketing personnel, mais il y a aussi un espace de réinvention de soi dans le bronzage.
Ouais, je me suis intéressée à travers la figure de ma mère, mais pas que, au transfuge de classe et à ce qui fait qu'on passe d'une classe à l'autre. Et on utilise souvent depuis Bourdieu le langage comme exemple. Devenir bourgeois, c'est
Pierre
adopter
Bourdieu,
un code.
Pierre Bourdieu, sociologue. Ouais.
Oui, Pierre Bourdieu, le sociologue. Et il y a un impensé qui est le changement de peau. Et parfois, on va même littéralement muer, changer de couleur de peau pour oublier la ville dans laquelle on a grandi, l'environnement dans lequel on a grandi. Ça passe souvent par là, mais il n'y a pas que ça. La peau, les cheveux.
Alors, est-ce que cette passion concerne vraiment uniquement les Rastignac ? Pas forcément. C'est aussi le comble de l'érotisme, le bronzage ?
Oui, j'ai remarqué ça, surtout sur les réseaux sociaux où la marque du bronzage reste un signe de sensualité. Et puis on le voit avec la chanson de Gainsbourg en 78, Si Sex and Sun, c'est associé à une forme d'érotisme, mais qui va avec le marketing de soi, être beau, être sexy, être désirable.
Il y a le mythe d'Icare aussi, se rapprocher toujours du soleil, ça raconte ça le bronzage ?
Oui, j'ai l'impression en regardant... comment étaient les personnes bronzées, qu'ils avaient tous la même trajectoire d'Icare. Donc Icare, c'est ce personnage, le fils de Dédale, qui désobéit à son père et qui décide, pour fuir du labyrinthe, de voler. Et son père lui dit, il faut surtout pas, attention, tes ailes sont en cire, donc si tu t'approches du soleil, tu vas brûler. Et il voit le soleil, et évidemment, dans une forme d'hubris et d'enthousiasme, il cherche à s'approcher, il tombe dans la mer et il meurt. Et tous les personnages bronzés, débronzés, ont cette logique d'ascension, de matérialisme ascendant. Ça, c'est André Comte-Sponville qui le dit dans son livre sur le mythe d'Icare.
Donc, il y a le mythe d'Icare, il y a le Rastignac qui est mobilisé. Et alors, aujourd'hui, finalement, ces imaginaires-là sont en train de se métamorphoser. C'est plus du tout ce qu'on recherche. En tout cas, vous parlez de la K-pop. Vous dites, dans la culture populaire, il y a des signaux. On se retrouve avec des idols, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, les stars de K-pop, qui sont des visages blafards, ou en tout cas très, très, très clairs, avec légèrement des pommettes rehaussées de rose. Mais donc, on a complètement changé. Ça, c'est un signe de bascule de ce qui est désirable.
Oui, en fait, l'histoire du bronzage, c'est une histoire très courte dans le temps, puisque dans les sociétés chrétiennes, le bronzage a été stigmatisé jusque dans les années 1930. Et donc, la mode du bronzage, elle a duré...
C'est-à-dire que ça signifiait... Qu'est-ce que ça signifiait ?
Le bronzage, ça signifiait qu'on travaillait dans les champs, globalement. Et donc, la blancheur était un signe aristocratique. Mais ça, c'est un héritage de la chrétienté qui a beaucoup valorisé la blancheur parce qu'ils l'ont associée à une forme de virginité.
Et de pureté.
De pureté. Et ensuite, la mode du bronzage a été très rapide. Elle a duré, en gros, en France, en tout cas, des congés payés en 36, où Eugène Schueller, le fondateur de L'Oréal, avait eu l'intelligence et l'instinct de créer l'ambre solaire un an avant. Jusque dans les années 80, où on s'est rendu compte, après les années 80, des conséquences du bronzage, c'est-à-dire le vieillissement de la peau, mais aussi le cancer. Et puis je pense aujourd'hui que l'idée même du soleil ne peut plus être associée à l'hédonisme, puisque le soleil aujourd'hui, c'est aussi la canicule. La canicule en latin, ça veut dire petite chienne, mais aujourd'hui c'est plutôt le gros monstre, enfin la menace. Et le soleil en général est associé à une forme de menace ou de principe mortifère avec le réchauffement climatique, je pense.
Oui, l'été devient une saison des horreurs.
Exactement.
La bourgeoisie se méfie de plus en plus du coup de l'exposition. Il y aurait une fracture. On a parlé tout à l'heure d'une fracture dans l'automobile avec une France qui est obligée, elle, de se déplacer, d'avoir un véhicule, et puis une France qui, elle, peut mixer, hybrider ses modes de transport, faire des choses plus écologiques. Est-ce qu'il y a des fractures aussi dans le rapport au bronzage aujourd'hui dans la société, des gens qui vont justement afficher comme signe plutôt de réussite une blancheur à nouveau?
Oui, il y a toute une forme de palette, j'ai remarqué ça dans le bronzage. Alors il y a ceux, on peut repérer, c'est surtout l'hiver que la fracture sociale est marquée. On peut repérer ceux qui sont partis au ski parce qu'ils ont le bronzage et la marque des lunettes. Le plus chic, c'est ceux qui sont partis loin, donc eux on les repère dans le métro parce qu'ils ont les mains bronzées. Et c'est encore le signe d'une forme de hiérarchie socio-économique, c'est clair.
Vous parliez de votre mère tout à l'heure qui, donc après son cancer de la peau, retourne au soleil. Est-ce qu'on peut imaginer que voilà, c'est une nécessité, on parlait tout à l'heure de cette passion, malgré tout, pour la voiture, ce rapport émotionnel, il y a un rapport peut-être émotionnel constitutif de notre identité pour certains au bronzage et qu'on ne peut pas abandonner?
Alors c'est clair, dans le cas de ma mère, ça s'appelle la tanorexie, donc c'est l'équivalent de l'anorexie, c'est l'addiction au bronzage.
Ah oui, c'est même un nom. Elle est tanorexique.
Ouais. Elle et d'autres, parce que ça procure un bien-être aussi, parce que c'est, je pense que ça marque le signe d'une forme de victoire, d'un droit à la paresse, d'un droit au loisir pour lequel on a beaucoup lutté et donc on n'a pas envie de renoncer, auquel on n'a pas envie de renoncer. Et puis c'est un peu, oui, comme la voiture, comme la cigarette, c'est pas parce qu'on en connaît les dangers et les excès qu'on s'arrête.
Jean-Laurent Casselli, il y a aussi dans le livre de Margot Casson le portrait d'une France qui va au Club Med et qui passe toutes ses vacances à Marrakech. Le bronzage,
pas forcément la même.
En temps de crise, c'est indécent.
Ben, en fait, en vous écoutant, je me disais que je pensais évidemment à Donald Trump, parce qu'on pense à sa couleur orangée, et surtout au fait que ces marqueurs sociaux, les bagnoles, le bronzage, le bling-bling, en fait, on les retrouve à deux endroits de la société. On les retrouve dans les catégories populaires. Mais pourquoi ? Parce qu'elles veulent ressembler aussi à un modèle qui est celui des gens qu'elles imaginent être tout en haut de la société. Et il se trouve que j'ai regardé depuis le film The Apprentice sur la jeunesse, les jeunes années de Donald Trump, documentaire Netflix sur l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, et quelqu'un dit à un moment au début de son émission de télé-réalité, Donald Trump, c'est l'idée que les pauvres se font de quelqu'un qui est très riche. Et en fait, il a vraiment tous ces codes-là. Et c'est pour ça que les gens l'adorent. Enfin, la base militante républicaine qui va voter pour lui, il l'adore. C'est parce que c'est quelqu'un qui est tout en haut de la société. Il n'est pas du tout comme eux. D'ailleurs, les gens de gauche leur disent, mais arrêtez de voter pour ce type-là. Il va baisser les impôts pour les riches. Il va pas du tout vous aider. Mais en fait, en termes de code culturel, il ressemble beaucoup plus à un Américain d'en bas. Certains américain d'en bas que quelqu'un qui fait partie de catégorie supérieure, à fort capital intellectuel, qui va lui expliquer qu'il faut, ce que vous disiez, qu'il ne faut pas faire ci, qu'il ne faut pas faire cela, etc. Et on voit bien à quel point, d'ailleurs, Michel Fossel, si tu avais écrit il y a
un an, je crois... philosophe de l'intime.
Voilà, philosophe, avait écrit un essai sur la gauche et les plaisirs. Le risque de que, par exemple, une partie de la gauche soit vue comme le parti de la contrainte morale. Et on voit à quel point, finalement, dans le
bronzage... Il y aurait une subversion dans la voiture et dans le bronzage, alors, après.
Je dis pas ça, mais je pense que ce sont des codes qui parlent encore à pas mal de gens, et pas que à des gens qui sont tout en bas de la société. Voilà, il y a plusieurs aussi catégories d'amateurs de bagnoles. Il y a des gens qui sont contraints, qui roulent le diesel, mais il y a aussi des gens qui ont des très grosses voitures, des voitures prestigieuses, et finalement, ils se reconnaissent un petit peu en miroir.
Valérie Charolle, vous opiniez du chef.
Oui, mais je voulais rajouter que, en fait, on peut maintenant être... parce que le bronzage avec l'oisiveté, ça va très bien. Mais on peut être... on n'a pas besoin d'être pour être bronzé, maintenant, on peut mettre de l'auto-bronzant.
Et oui.
Et donc, on peut être bronzé sans être allé en vacances. Et vous pouvez être allé en vacances sans être bronzé, parce qu'on peut se mettre sur une plage. Moi, je sais que j'aime beaucoup les plages sur les îles grecques où il y a des oliviers. On se met à l'ombre des oliviers. Donc, il y a des choses qui se passent qu'il faut regarder de façon plus fine. Donc, être bronzé aujourd'hui, c'est plus trop à la mode, parce que vous n'avez même pas besoin d'être allé en vacances pour l'être.
Enfin, en tout cas, il y a même une tendance faux bronzage sur les réseaux sociaux. Margot Casson, votre maman, elle avait carrément une cabine de bronzage à la maison.
Ouais, et moi, du coup, puisqu'on vivait ensemble. la question des objets, Jean Baudrillard aussi parle beaucoup de ça, à quel point les objets font la société. Et à la fin du 19e siècle, il y avait, j'en sais rien, la machine à vapeur. Ensuite, dans les années 60, la machine, c'était le lave-linge. Et dans les années 80-90, c'est la machine à UV. Ça fait partie des machines qui disent ce que c'est que la société.
Question rituel, qu'est-ce qui dans l'actualité vous a fait signe vers un monde nouveau? On commence avec vous, Valérie Charolle.
C'est pas quelque chose de très positif en l'occurrence. J'ai pensé au fait que l'État se soit pas opposé à la vente du Doliprane à un laboratoire étranger, alors qu'il en avait la possibilité, puisque c'est un actif stratégique en termes de santé, quoi. Et ça m'a fait vraiment penser à cet état de fait qui date pas de cette année, hein, qui est l'incapacité des politiques à faire ce qu'ils disent, parce qu'ils nous avaient dit que les actifs stratégiques
resteraient français, enfin c'est une sorte de souveraineté médicale.
On nous l'avait promise, et à se projeter dans le long terme, parce qu'à long terme il faudrait le garder.
Voilà, ça c'est pour vous, Valérie Charolle, le point de vue de la philosophe, Valérie Charolle. D'un mot, Jean-Laurent Casselli, un signe vers un monde nouveau?
Moi, c'est pareil, ça commence mal, mais en fait, c'est une bonne nouvelle. Dans le Morbihan, en Bretagne, un élevage de 72 chiens clandestins. Élevage clandestin a été démantelé sur décision de justice après l'appel d'associations de protection des animaux. Donc, les chiens étaient dans un état squelettique. Ils ont été donc saisis, ils vont être remis à des refuges et des familles d'accueil. La protection animale, l'idée du bien-être animal a dépasser les associations qui ont, par exemple, diffusé des vidéos dans les abattoirs. C'est quelque chose qui devient assez profond dans la société, même si ça ne se traduit pas toujours sur le plan électoral. Le parti animaliste n'est pas le premier parti de France, mais
c'est une idée qui progresse en profondeur.
C'est une idée qui progresse, et le fait que la justice l'ait prise au sérieux me semble être le signe que quelque chose est en train de changer.
Nicolas Flamondon, qu'est-ce que vous avez repéré, vous, qui fait signe vers un monde nouveau cette semaine? Qu'est-ce que l'ancien publicitaire a vu?
Alors, c'est un truc plus technologique, c'est SpaceX avec, cette société qui a réussi à faire atterrir des propulseurs de fusées pour la première fois depuis que la conquête spatiale existe. Moi, je trouve que ça peut ouvrir des portes assez énorme, en tout cas, où ça peut donner des idées à énormément de gens pour la suite et pour améliorer nos quotidiens à tous et pour réutiliser, par exemple, des choses. Juste simplement le fait de se dire que tu envoies une fusée dans l'espace et tu récupères les propulseurs sans les faire tomber dans la mer, ça peut t'ouvrir à plein de choses pour la récupération de manière écologique pour la suite. Donc c'est plutôt intéressant.
Margot Casson, t'as vu avec vous un signe vers un monde nouveau cette semaine?
Ouais, moi c'est culture et politique, c'est aussi à propos de The Apprentice que j'ai vu au cinéma et que je vous conseille vivement, que j'ai adoré. Et en voyant ce film, j'espérais justement que le monde nouveau ne ressemblerait pas au monde d'hier en pensant aux élections américaines.
D'accord, voilà pour le tour de table. Et voilà Donald Trump qui aurait eu presque son plus que quart d'heure hein, d'ultra-célébrité. Merci infiniment à chacun de vous. Margot Cassan, je rappelle, Ultraviolet, c'est le titre de votre livre, publié chez Grasset, Nicolas Plamondon. On vous suit donc sur Instagram, Nico le Petit Français, Nico LPF, Valérie Charolles. On vous retrouve dans le dernier numéro de Cité, l'économie de marché contre le capitalisme. Vous aviez également publié chez Fayard, vous nous l'avez signalé, ça s'appelle Se libérer de la domination des chiffres. C'est important et vous travaillez à l'EHESS. Enfin, merci à Jean-Laurent Casselli qui était un peu à domicile puisqu'on vous retrouve chez Ali Ribéi dans Grand Bien vous fasse, un jeudi sur deux. Et puis votre livre de référence, bien sûr, coécrit avec Jérôme Fourquet, La France sous nos yeux, c'était publié au Seuil. Merci à toute l'équipe d'Un Monde Nouveau, à la rédaction en chef Redouane Tella, à la préparation Marion Philippe, réalisation Frédéric Milano, à la technique Loïs Moreau.